Des mots pour le dire, une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, que vous soyez sur le 91 MHz dans l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien l'agglomération Nîmoise, saison 3.1, Radio Alliance Plus. Le faire est révélateur de l'être, c'est ce que dit Jean-Paul Sartre, et Friedrich Nietzsche rajoutait « Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. » Alors, j'aime bien cette citation de Friedrich Nietzsche, parce que la dernière émission, toujours sur Crucifié pour nous, Michel, vous disiez, qu'est-ce que c'est que ces agneaux qui ont besoin d'un berger, etc. Donc, je trouve que cette expression ou cette citation de Nietzsche reprend bien qu'en fait, il faut être... un esprit rebelle, voire un esprit rebelle, parce que sinon, effectivement, on devient des agneaux. Parce que celui qui sait, tous les commandatures, tous les commandeurs seront à ce moment-là détourner le peuple de voies ou les emmenant sur des voies qui ont montré de par l'histoire, de par le passé, que c'était des voies barbares, souvent.
Absolument. Et actuellement, sort sur les écrans un film consacré à Anna Arendt, hein, qui a écrit un livre sur Eichmann, hein, Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. Elle montre bien que l'obéissance, justement, est une démission de toute pensée personnelle. Hein. On ne fait qu'obéir à des ordres, hein, et on fait crédit à celui qui nous commande, parce qu'on suppose qu'il sait ce qu'il fait. C'est comme ça que Eichmann s'est défendu. Hein. Et ça, c'est très, comment dire, impressionnant, parce que cela nous guette, hein, nous aussi, hein. Stanley Milgram a fait un livre là-dessus, avant le livre d'Anna Arendt, qui s'appelle « Soumission à l'autorité ». Et ce livre a été, illustré, enfin, un épisode de ce livre a été illustré dans une séquence du film d'Henri Verneuil qui s'appelle « I comme Icare ». Il nous montre bien que nous obéissons à quelqu'un dont nous pensons, justement, qu'il nous est supérieur. Donc, le mal est banal, ce qui ne veut pas dire qu'il faut le banaliser. Pas du tout. Hein. La banalité du mal n'est pas une banalisation du mal, mais il est banal parce que c'est une tentation chez nous d'abdiquer toute pensée, toute réflexion personnelle. C'est pour ça que la phrase de Nietzsche que vous avez citée est très très intéressante. Donc, sachant rester vigilant, hein, et ne pas nous laisser râler aux sirènes qui veulent nous manipuler ou nous diriger.
Et alors, on disait crucifié pour nous.
Voilà, alors.
Crucifié pour nous, c'est donc tiré du credo de Nicée, puisque nous abordons les deux credos, le credo de Nicée et le credo dit symbole des apôtres. Mais cette expression crucifié pour nous, on la retrouve que dans le symbole de Nicée. Et donc, nous arrivons aujourd'hui à la troisième étape. C'est là, c'est-à-dire, on atteint le col du galibier, parce que c'est la partie la plus difficile. Mais en même temps, la grammaire est c'est votre sensibilité, votre manière de d'être un révélateur, comme une photographie qui va révéler la grammaire est le révélateur du sens.
Absolument. Donc, nous avons terminé la précédente émission par une réflexion sur la culpabilisation. La culpabilisation du croyant par les institutions diverses qui veulent s'assurer sa soumission. Hein. Eh bien, nous avions vu que l'expression « prendre sa croix » hein, dans le texte initial était « alaoriste » en grec, hein, c'est-à-dire quelque chose de ponctuel. Hein. Et ensuite, justement, on a ajouté « prendre sa croix tous les jours », etc. Donc, on est passé à un présent. Hein. Le présent est duratif. Hein. La différence entre l'aoriste et le présent est la suivante. Par exemple, si je dis en français fais attention en traversant la rue. Cela peut vouloir dire fais attention maintenant en traversant la rue, hein, tu vas la traverser maintenant, ou bien fais attention en général et toujours en traversant la rue. Vous voyez, hein. Le français ne distingue pas les deux temps, hein, le ponctuel et le général. Mais au rebours du français, le grec mettra un aoriste dans le premier cas, hein, fais attention maintenant en traversant la rue, puisqu'il s'agit d'une circonstance précise et ponctuelle, limitée, et il mettra un présent dans le second, puisque c'est une pensée générale et universalisable. Le grec est beaucoup plus précis que le français, et mélanger les deux choses est très dangereux. Hein. Tout le monde, vous savez bien, Redouane, que entre prendre son chapeau pour sortir de chez soi et prendre sa croix pour la porter toute sa vie, il y a une petite différence. Hein. Donc, le grec mettrait un aoriste dans le premier cas et un présent dans le second. Donc, restons au sens ponctuel de l'aoriste. Malheureusement, le latin ne fait pas cette distinction grecque entre aoriste et présent, et il met par exemple le subjonctif tollat crucem, qui à la fois peut être ponctuel ou général, qu'il prenne sa croix. Je rappelle ce dont nous avons dit parlé la dernière fois, que la parole de Jésus, qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Donc en latin, hein, qu'il prenne sa croix, peut-être, ça peut être quotidien, si vous voulez. Hein, tandis qu'en grec, c'est tout à fait différent. Et alors, un autre exemple de grammatical qui montre comment s'est fondée l'idéologie sacrificielle de l'Occident chrétien vient d'un contresens de temps sur le fameux Kyrie eleison. Hein, Kyrie eleison qui commence toutes les messes catholiques, par exemple, hein, et qui ne... bon, au point que... c'est du grec, hein. Ce qui me fait rire, c'est que parfois on dit « j'ai été à la messe, j'ai entendu la messe en latin, j'ai entendu le Kyrie eleison c'est absurde, puisque Kyrie eleison est une expression grecque. Alors, en vertu des structures du grec, Kyrie eleison ne peut vouloir dire que « Seigneur, prends pitié de moi maintenant pour le besoin précis et concret que j'ai de toi. Hein. » Or, on traduit souvent « Seigneur, aie pitié de moi ». Mais si je dis « Seigneur, aie pitié de moi », ça peut signifier « en général, pour mon être ou pour mes fautes, ou et pourquoi pas en vertu de ce fameux péché originel que saint Augustin a inventé. Hein. Donc, je suis pécheur, donc Seigneur, aie pitié de moi. » Alors qu'il faudrait traduire « prends pitié de moi parce que j'ai fait telle ou telle faute, telle ou telle bêtise ou tel péché. » Prenez par exemple l'exemple de l'aveugle de Jéricho, qui est Bartimée dans le texte évangélique. Il veut tout simplement être guéri de sa cécité et non pas purifié de son péché. Je lis Marc chapitre 10, verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, prends pitié de moi », vous voyez, « eleison me », hein. Donc il disait pas « aie pitié de moi », mais « prends pitié de moi maintenant puisque tu te trouves en face de moi, hein, et que tout à l'heure tu seras parti, hein, voilà ». Donc, si on décontextualise le eleison me, hein, eh bien, on va aboutir à un tout autre sens. Et l'abus constant ou quasi constant des traducteurs et des prédicateurs, ici, est constatable. Si on traduit par « aie pitié de moi », évidemment, on peut voir dans l'aveugle une image non plus de l'infirme particulier qu'il est actuellement, mais du pécheur que nous sommes tous. Et sa parole peut se généraliser à toute situation humaine. Bartimée peut nous préfigurer, et sa cécité physique, qui pourtant est la seule chose qui le préoccupe dans sa situation, mettons-nous à sa place, il est aveugle, hein, elle sera vite oubliée, cette cécité, et Bartimée ne sera plus qu'un symbole de notre propre péché. Et peut-être lui-même, pourquoi pas, s'il est aveugle, on pensera qu'il a péché en vertu de la théologie de la rétribution dont vous avez parlé, Redouane, dans une émission précédente. Hein. Alors, on pourra commenter cet épisode de cette façon, hein, et de façon extravagante. Alors, le Kyrie ainsi est mal compris, commence toujours la messe en Occident. Hein. La messe catholique, à laquelle j'assistais autrefois, commençait par « Reconnaissons tous que nous sommes pécheurs. Hein. » Et donc, « Dieu, aie pitié de moi. » Et « aie pitié de moi » permet en effet de dire que l'homme est essentiellement pitoyable. La culpabilité va être universelle et infinie, et la demande de pitié est donc elle aussi universelle. Et alors, à répéter ainsi le Kyrie Eleison, on va faire, quoi, Redouane, je vais peut-être vous apprendre la chose, je ne sais pas, une kyrielle de plaintes et de plaintifs, hein, et de coupables. Le mot kyrielle, oui, c'est une question comme au jeu des 1000 francs, hein, d'où vient-il? Il vient de kyrier, kyrie Eleison, parce qu'à force de le répéter, on dit c'est une kyrielle. C'est comme le mot patenôtre. Vous savez, Redouane, d'où ça vient, patenôtre? Ah oui, eh bien, ça vient de paternoster, d'où patenôtre, voilà. Vous voyez, l'importance de la culture religieuse, c'est qu'elle éclaire notre vocabulaire, dont nous nous servons. Tout le monde connaît le mot kyriel, à peu près, hein, bon. Mais on ne sait pas son origine, vous voyez, hein. C'est comme quand on dit en provençal pécaire ou pécher, ben, c'est pécheur, hein, pécheur, hein, pécator, vous voyez, hein. On oublie le sens. Alors, chez nous, là je ne parle que du milieu dont je viens, l'acte de contrition n'en finissait pas d'enfoncer le clou, hein, au cas où l'on ne comprendrait pas. On nous faisait dire, j'ai péché, oui j'ai vraiment péché, ou bien c'est ma faute, c'est ma très grande faute. On nous faisait dire, mea culpa, mea maxima culpa. Et là, je dirais, c'est une sorte de bégaiement assez masochiste, hein. Cette mendicité ne nous grandissait pas. Alors, bon, je ne parle que de ceux que j'ai connus, peut-être a-t-on changé maintenant, hein. Mais effectivement, quand on se confessait, c'est ce que l'on disait, hein. Alors, la Bible juive, elle, ne définit pas l'homme comme un essentiellement pécheur, pas du tout. Elle dit que l'homme est responsable de ses actes. Hein. Dans sa version de la Septante, par exemple, dans sa traduction grecque, elle soumet la demande de pitié à un contexte, à un pacte qui a été passé, à un dialogue vrai, à une remémoration, un engagement, etc. Je lis le passage du psaume 119, hein, verset 58. « Je t'implore de tout mon cœur, prends pitié de moi selon ta promesse. » Donc dans la Septante, vous avez « Eleison me kata to logion sou », vous voyez, hein. Donc ce n'est pas de l'être général et abstrait du demandeur qu'il s'agit ici, mais d'une situation concrète dans laquelle il se trouve, hein. Alors il y a un contexte précis, hein, selon ta promesse, une négociation qui s'est passée entre le croyant et son Dieu, avec actuellement un souvenir ou une anamnèse de ce moment, du moment du contrat. Mais très vite, dans la décontextualisation qui a suivi de cette demande, le sous-condition deviendra un sans-condition. On dira, de toute façon, et quoi que je fasse, j'ai besoin de ta pitié, aie pitié de moi, donc toujours et en toute occasion. Et alors, sans doute, le latin, comme je le dis souvent, hein, a permis ce passage, puisqu'en latin, vous avez « miserere mei », qui peut effectivement avoir une valeur tout à fait générale. Hein. Donc, la messe, je le répète, la messe d'autrefois au moins, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, alimenter cette culpabilité, puisque j'ai entendu en 2001, hein, la date à laquelle mon livre est paru, « Les deux visages de Dieu », j'ai entendu à France Culture, à la messe, la phrase suivante, « Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur le sacrifice de ton Fils qui nous sauve. » Vous voyez, hein? Et donc, je dirais que la tendance à décontextualiser les demandes de pardon est générale dans l'Église. On les sort de leur situation première, dénonciation, pour les adapter à n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. Alors, tout le monde ne connaît le fameux « Je ne suis pas digne », hein. Domine non sum dignus, Seigneur, je ne suis pas digne. Il résume la culpabilité chrétienne. Mais je vais prendre un exemple pour vous montrer la différence entre une culpabilité ponctuelle qui n'est pas essentielle. Par exemple, la parabole de l'enfant prodigue dans l'évangile de Luc. Le texte de Luc au chapitre 15, verset 19, porte dans la bouche de l'enfant prodigue « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Vous voyez, il n'y a pas « je ne suis pas digne », mais « je ne suis plus digne ». En grec, vous avez « ouketi » et en latin « non iam », »,« je ne suis plus digne ». C'est le verset 19 et 21 du chapitre 15 de Luc. Hein. Alors, c'est compréhensible, puisque cet enfant a déjà fauté. Il est donc responsable de sa faute. Mais de là à dire, comme on le fait bien souvent, et en intériorisant systématiquement la phrase, et en se l'appliquant à tout bout de champ, « je ne suis pas digne », il y a une grande différence. J'espère que les gens y réfléchiront, hein, mais je pense que c'est depuis Augustin que l'on a cette idée de l'humanité comme une masse de pécheurs, condamnés, massa damnata, massa damnata. Et peut-être aussi, alors là, je vous titille un peu Redouane, chez un certain Calvin, le Calvin de l'institution chrétienne, peut-être.
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, donc dernière partie dernière partie de l'expression du credo de Nicée, crucifié pour nous. Alors, je ne sais pas si je suis digne de ce micro ou de ces mots pour le dire, mais comme le disaient les réformateurs, toujours pécheur, mais toujours sauvé. Et du coup, la... voilà, c'est prendre en compte la fragilité humaine. Et je crois que c'est comme ça que je le verrai. C'est-à-dire, quand on dit « je ne suis pas digne », c'est reconnaître mes limites. Et reconnaître mes limites, c'est prendre en considération mon humanité. Je ne suis pas un super-homme, je ne suis pas... parfois on dit oh, « il a pété les plombs ». Oui, c'est normal, parce que je suis un pécheur, je ne suis pas un saint. Ou alors, nous sommes tous des saints, et c'est pour cela que je trouve que dans le protestantisme de dire « il n'y a pas de culte des saints, mais nous sommes tous des saints ». Et en même temps, dans cette humanité qui est la nôtre, c'est-à-dire la fragilité. Parfois, on n'est pas digne de ce à quoi on voudrait aspirer.
Oui, et je me souviens, dans une émission précédente, à propos de « je suis », hein, Redouane, puisque vous connaissez bien l'espagnol, vous aviez bien distingué en espagnol les deux verbes qui signifient être, hein, être essentiellement et être ponctuellement, hein. Donc dans le je ne suis pas digne, il faut prendre le être ponctuel, comme quand je dis je suis enrhumé ou je suis grippé, vous voyez, quelque chose comme ça, hein, il me semble. Et au moins ça serait beaucoup plus précis. Mais si je dis je suis au sens essentiel éternel, alors à ce moment-là, c'est écrasant de culpabilité. Mmh. il me semble. Là, je parle sous votre contrôle puisque je ne connais pas l'espagnol. Et je regrette justement parce que cette subtilité, cette différence me semble très très intéressante. Malheureusement, en français, je ne suis pas digne. Ça peut signifier ma nature est d'être pêcheur, hein, ou bien bon, il m'arrive de faire des fautes, etc. À ce moment-là, je ne suis pas coupable essentiellement, mais je ne suis que responsable de ce que j'ai fait. De toute façon, asséner la culpabilité, comme un certain christianisme l'a fait, ne rend pas heureux les gens. Hein. Et alors, seul peut rendre heureux les autres, celui qui est lui-même heureux. Hein. Qui se retrouve lui-même va retrouver les autres, et son bonheur, s'il le connaît, va irradier sur eux, ça va être contagieux. Ainsi donc, je suis réuni à moi-même, les autres me reconnaissent comme tel, et ils ont à leur tour envie de faire comme moi. Hein. Et donc, la transformation personnelle va transformer l'entourage, et en retour, je reconnaîtrai ma transformation intérieure dans le regard que les autres portent sur moi à l'extérieur. C'est ce que dit l'évangile selon Thomas. Hein. Mais le royaume est le dedans de vous et il est le dehors de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connu. C'est le Logion 3, vous voyez. Donc quelqu'un qui, comme vous le dites, Redouane, est sauvé définitivement, ça c'est l'universalisme théologique, hein, à ce moment-là, va être serein, il va pas vivre dans l'angoisse de la damnation, puisqu'il est déjà sauvé. Hein. Donc, il va être équilibré, et puis son bonheur, son équilibre va irradier sur les autres, vous voyez, hein, à l'inverse. Si on pervertit l'expression crucifié pour nous, hein, eh bien il y aura victoire en nous du désir de mort, puisque nous voudrons imiter Jésus, hein, il y a la fameuse imitation de Jésus-Christ, et nous crucifier nous-mêmes, hein, victoire de la pulsion de mort au sens freudien. Et ça me semble problématique. Par exemple, il y a un vers de Polyeucte qui m'a toujours terrifié, hein. Polyeucte dit à Néarque, je crois, son ami, et vous savez que l'histoire de Polyeucte, va briser les idoles païennes pour courir aux martyrs, hein. Bon, c'est un peu comme les talibans qui ont brisé les bouddhas de l'Afghanistan, les bouddhas afghans, hein. Il va être iconoclaste, et par le martyr, il va, aller au ciel, si vous voulez, hein. Eh bien, Polyeucte dit, allons mourir pour lui comme il est mort pour nous, vous voyez, mais il entend mourir au sens propre, hein. C'est vraiment quelque chose de terrifiant. Et alors, comme j'aime beaucoup les variantes, je signale aux auditeurs que ce vers de Polyeucte, qui est le vers 720, hein, donc je ne suis pas sûr qu'il soit... Que ça s'adresse à Néarque, enfin, à vérifier, à son ami Néarque, vers 720. C'est un vers, le vers de la version originale de 1643, hein, mais dans la version de 1689, la dernière version de Polyeucte parue du vivant de Corneille, du vivant de l'auteur, il est remplacé et répond par « et répondre avec zèle à ce qu'il veut de nous ». Vous voyez, c'est beaucoup plus édulcoré. Au lieu de « allons mourir pour lui comme il est mort pour nous », eh bien vous avez « et répondre avec zèle à ce qu'il veut de nous », comme si Corneille lui-même avait été effrayé de ce qu'il avait écrit, vous voyez, hein. Et il s'est adouci, il a adouci sa formule, c'est une euphémisation intéressante. Et alors vous voyez que les variantes, elles sont partout, pas seulement dans les textes bibliques, mais aussi dans les textes littéraires. Parce que dans le « allons mourir pour lui comme il est mort pour nous », on peut se demander de quelle nature est cette mort, hein. Est-ce que c'est une mort symbolique ou une mort réelle, hein. Et la messe, comme nous l'avons dit dans la précédente émission, au moins dans sa version catholique romaine, justement, est la répétition d'un sacrifice expiatoire, l'autel étant celui de l'immolation de la victime, hostia. Hein. Donc on offre sur l'autel, le prêtre offre sur l'autel, le sang qui sera versé pour nous et pour la multitude en rémission des péchés. C'est un souvenir de l'évangile selon Matthieu, hein, chapitre 26, verset 28, « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Alors vous voyez que ce bois ensanglanté qui nous sauve, hein, nous le commémorons encore sans nous en rendre compte, alors au moins en milieu catholique, et même, je dirais, Redouane, même en milieu athée. Parce que quand nous disons que pour nous porter bonheur, il nous faut toucher du bois, hein, eh bien, c'est le bois de la croix que nous voulons toucher. Même un athée qui n'a plus souvenir, justement, de l'origine religieuse de l'expression, je touche du bois, hein, il s'agit vraiment du bois de la croix. Alors, vous voyez, là aussi, je dis que la culture religieuse est une partie de la culture générale, et que finalement, explorer les notions religieuses nous fait explorer les strates du langage, de la langue que nous prononçons. Pareillement, quand nous disons « je croise les doigts », hein, « je croise les doigts », eh bien, on fait référence à la croix. Or, beaucoup de gens croisent les doigts, simplement, c'est quelque chose de magique pour eux. Et même ce signet que l'on faisait, que l'on fait encore en monde chrétien orthodoxe et en monde catholique romain. Mais pas en monde protestant, hein, Redouane.
Chez les luthériens, certains font le signe de croix.
Mais
c'est surtout le pasteur à un moment donné de la liturgie.
D'accord. Mais chez les réformés, non, chez les communistes, non. C'est intéressant parce que c'est quelque chose de magique. Hein. Alors, c'est tout ça, c'est un souvenir de la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, hein, à propos de Jésus, crucifié pour nous, donc, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Vous voyez, sur le bois, c'est le bois de la croix. Et le geste que nous faisons en touchant du bois, hein, répète le texte. Alors, vous voyez, Redouane, je me dis agnostique, mais je ne suis pas sûr que je ne toucherai pas du bois, hein, figurez-vous, ou je ne croiserai pas les doigts, si j'avais la perspective de, comment dire, d'une épreuve qui m'attend, ou d'un danger qui me guette. Je ne veux pas me faire plus courageux que je ne suis, pas plus que je ne voudrais passer sous une échelle. Hein. Vous savez d'où vient cette expression « passer sous une échelle » ? C'est rompre, si vous voulez, le triangle magique que fait l'échelle oblique d'un côté, avec les deux autres côtés, l'horizontalité du trottoir et la verticalité du mur. Et ce triangle, c'est le triangle de la Trinité, vous voyez ? Donc, c'est rompre le dogme de la Trinité, passer sous une échelle. Hein. Alors, je ne suis pas sûr que je passerai volontairement sur une échelle, vous voyez. Je suis très prudent, hein. On sait jamais, après tout. Qu'est-ce qu'on risque, hein. Pascal disait, pour Dieu, il faut parier. Qu'est-ce que vous risquez? S'il n'existe pas, vous ne perdez rien, hein. À la différence de la Française des Jeux, hein, nos paris. Et s'il existe, on gagne tout. Alors, vous voyez, les superstitions, moi, plus je réfléchis, plus je me dis que, après tout, l'esprit n'est pas si pur que jamais idolâtre, comme le disait Paul Valéry. Vous savez, les superstitions, Redouane, il y en a, par exemple, avant de se coucher, certains regardent sous leur lit, vous voyez, bon. Et certains, encore plus, n'osent pas regarder sous le lit. Vous voyez, voilà. Donc, ça c'est le superstitieux au deuxième degré. Hein, bon. Ils n'osent même pas regarder sous le lit. Hein. Alors, voilà. Bon, moi, je pense que ces gestes instinctifs sont constitutifs, hein, de notre être. Hein. Gardons-les, même si nous en avons perdu l'origine. Hein. C'est un peu comme quand nous portons, une femme porte, ou un homme, même peut-être, porte une croix autour du cou en forme de bijou, parfois par coquetterie, il oublie qu'il porte l'instrument de supplice, le stauros, le poteau de supplice. Hein. Alors, après tout, je ne sais pas, je pense que vous êtes aussi tolérant que moi là-dessus, Redouane. Hein.
Donc, oui, tout à fait, je vous suis.
C'est pas la peine d'être maximaliste.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire ou des mots pour porter sa croix, je ne sais pas. Enfin, on va voir. Nous sommes toujours dans cette troisième partie de l'émission Crucifié pour nous. Et nous arrivons enfin au bout de cette expression qui se trouve dans le credo du Nicée. Et qui, pendant ces trois semaines, maintenant, nous a permis de faire le contour. Comme quoi, crucifié pour nous, trois petits mots, et même pas, c'est deux mots, un mot, un verbe.
Oui.
Et surtout, non pas sans le verbe, sinon l'expression pronobis.
Oui, mais même crucifié est employé, métaphoriquement à tout bout de champ. Hein. Je sais pas, par exemple, un commentateur sportif à propos d'un match de foot, il dira tel l'avant-garde.
Le gardien de but a été crucifié.
Crucifié, le gardien de but, vous voyez. C'est très curieux, hein, c'est très curieux. Donc c'est devenu depuis 2000 ans dans notre culture c'est passé dans notre langage, hein, alors
un pasteur me disait récemment que au temple de Maglone qui se trouve le temple protestant réformé de Maglone qui se trouve à Montpellier, il y a une visite que font annuellement les petits-enfants de l'école se trouvant dans le quartier du Petit Bar, qui rentraient pour la première fois dans un temple, ou qui rentrent pour la première fois dans une église. Là, c'était dans le cas présent dans un temple. On posait la question, ils étaient tous fascinés par la question de la crucifixion. Est-ce que ça fait souffrir? Pourquoi? Comment? Enfin, il y avait beaucoup de questions. Et comment ce Dieu se fait il se fait crucifier, c'est-à-dire que c'est l'homme qui gagne. Et c'est vrai que la question de la crucifixion reste depuis 2000 ans au cœur des débats.
Absolument, absolument. Et quand les jésuites voulaient évangéliser les Chinois, ils leur montraient un crucifix, les Chinois éclataient de rire. Hein. C'était pour eux incompréhensible qu'on leur donnât à adorer la victime d'un sacrifice. Hein. Pour eux, un homme doit être, on doit proposer à l'adoration des fidèles quelqu'un d'épanoui.
C'est-à-dire que dans la tradition aussi, c'est là toujours le conflit culturel ou l'incompréhension culturelle, c'est que dans la tradition japonaise, dans la civilisation japonaise, on se fait harakiri, c'est-à-dire on se sacrifie. Et celui qui se fait harakiri, c'est pour laver la honte.
Absolument.
Donc c'est celui qui est honteux. Donc effectivement, on ne pouvait que rire. Comment suivre quelqu'un
Absolument.
Qui
au
se
Japon.
Fait harakiri.
Au Japon, oui. Oui, c'est au Japon. Alors c'est beaucoup, c'est l'éventration. Alors effectivement, on dit harakiri parce que le hara, c'est le ventre. Hein. Mais effectivement, regardez Mishima, par exemple, il s'est fait harakiri au vu de tous, hein, pour montrer la décadence du Japon moderne, qui avait abandonné les valeurs de l'éthique samouraï, de la noblesse, hein, au bénéfice d'une certaine américanisation du Japon. Hein. Donc ça a été un geste très théâtral et qui a frappé les esprits. Mais alors, vous parlez...
Dit-on, intellectuel d'extrême droite qui s'est suicidé à Notre-Dame, c'est aussi pour condamner le mariage pour tous. Voilà, ce jour, cet extrémisme qui ne porte pas vers la lumière, mais plutôt vers l'obscurantisme. C'est-à-dire quand on arrive à ce point-là, ne plus pouvoir faire appel à l'intelligence et au débat, c'est assez inquiétant.
Tout à fait. Alors quand vous parliez de ces petits-enfants, ces enfants qui s'informaient sur les détails du supplice de la crucifixion, eh bien, c'est compréhensible, hein, mais je dirais qu'il y a là quand même quelque chose d'assez trouble, hein, et je terminerai par là, je parlerai pas d'une ivresse du sang, mais les détails, la multiplication des détails, la caractérisation hypertrophiée, que l'on appelle en rhétorique, je le signale, une hypotypose, hein, qui n'est pas une maladie, quelque chose de médical, mais c'est une figure de style qui consiste à donner donner le plus de détails possible sur, en l'occurrence, sur la façon dont le sacrifice se produit, eh bien, ça me semble quand même assez dangereux. Alors, je pense, par exemple, à une strophe du Stabat Mater, qui est un très beau poème, consacré à la Vierge Marie au pied de la croix, Stabat Mater Dolorosa, Iux Sacrum Lacrimosa, Dum Pendebat Filius, c'est-à-dire, elle se tenait debout, la mère douloureuse, près de la croix en pleurs, pendant que le fils pendait sur la croix, voilà la première strophe. Alors dans ce poème du Stabat Mater, vous avez la strophe suivante, je le dis en latin, puis je vous donnerai la traduction. Fac me plagis vulnerari, fac me cruque inebriari, et cruore filii. Vous voyez? Alors ça veut dire, fais que je sois blessé par ses coups, enivré par la croix, fac me cruque inebriari, ça donnait ébriété, fait que je sois enivré par la croix et par le sang répandu du Fils. C'est bien du sang répandu qu'il s'agit, en latin c'est cruor, et ce n'est pas le sang abstrait, en latin le sang abstrait c'est sanguis, et cruor c'est le sang que l'on répand. Alors, ça nous terrifie, certains exercices spirituels de Jean de la Croix ou certaines méthodes d'oraison qui avaient lieu, mais qui, à mon avis, sont assez douteuses, consistaient à s'imaginer comment les choses avaient pu se passer, si vous voulez, avoir présent à l'esprit le sang dégoulinant, etc. Fait que je sois enivré par la croix. Je trouve que c'est quand même assez douteux. Alors vous savez que les anciens Incas pratiquaient des sacrifices horribles, qui consistaient à arracher le cœur de la victime sacrifiée et à l'offrir au soleil. Il y a alors des jeux vidéo, et là tous les parents sont au courant, des jeux vidéo dont il faudrait protéger nos enfants. Autrefois il y avait Mortal Kombat, etc. Ou alors le sang éclabousse l'écran en quelque sorte, et ce sang peut fasciner les enfants au point qu'il faut les interdire jusqu'à un certain âge, me semble-t-il. Ces jeux sont dégoulinants d'hémoglobine, je dirais. C'est un spectacle qu'on appelle gore. Alors tout le monde connaît ce que c'est que les films gore. Cela peut faire rire les adultes qui savent que c'est simulé, mais par contre les enfants, eux, voient ça au premier degré. Alors, je dirais que l'horreur est humaine, puisque cela fascine. Il n'y a pas que l'erreur qui soit humaine, mais aussi l'horreur. Mais pendant longtemps, on a fonctionné comme cela. Par exemple, je recite un vers de Polyeucte, il s'agit justement de la femme de Polyeucte qui vient d'être baptisée par le sang de son mari, qui a subi le martyre. Elle dit « Je vois, je sais, je crois, je suis désabusé, de ce bienheureux sang, tu me vois baptisé. » Vous voyez, le baptême par le sang. Est-ce que c'est un catéchisme pour les enfants? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que c'est même un catéchisme pour les hommes? Peut-être a-t-on changé là-dessus. Aussi, je remercie les credos de ne pas parler, au moins directement, du sang du Christ. Il y a simplement un crucifié, ils n'en parlent pas directement. Et surtout Nicée, qui ne parle même pas de la mort du Christ. Nous en reparlerons dans une émission future. Il parle que de son ensevelissement. La liturgie de la messe catholique, je répète, dit encore, sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, fait qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Il s'agit du rituel de la transsubstantiation, c'est-à-dire le dogme, admis en milieu catholique romain depuis le Concile de Trente, précisément contre les protestants, dogme selon lequel le pain se change en corps du Christ et le vin se change effectivement en sang du Christ. Cette transsubstantiation vise effectivement à la fois Zwingli et Calvin. Le premier, je crois, disait que le Dieu était présent sur l'autel in figura, en figure, et non pas in re, réellement. Les luthériens dont vous parlez, Redouane, croient à la consubstantiation, c'est-à-dire la présence à la fois du pain et du vin et du corps et du sang, et les réformés ne croient ni à l'un ni à l'une ni à l'autre, hein. Il s'agit pour eux d'une simple anamnèse, d'un simple souvenir, hein. Bon, alors le prêtre prononce cela, hein, fait que le pain et le vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Alors moi qui aime bien en tant que littéraire faire rendre aux mots tout ce qu'ils peuvent dire, hein, et pas seulement ce qu'ils veulent dire, hein. C'est toute la méthode que j'ai utilisée dans l'examen des credos, hein. Je pense que le lecteur est aussi l'auteur du texte, augeo augere, celui qui en augmente les possibilités sémantiques, auctor, c'est ça, hein, celui qui augmente ses possibilités. Alors je m'interroge sur ce fameux « pour nous ». Fait qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Eh bien, et je retombe sur mes pieds, la boucle se referme, vous voyez, Redouane, après nos trois émissions, je retombe sur le fameux « pour nous » que vous aviez d'un crucifié pour nous, vous voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ces offrandes sur l'autel deviennent pour nous le corps et le sang du Christ. Eh bien, ça peut signifier que ces offrandes deviennent corps et sang du Christ pour nous aider, pour causer notre salut, hein, pour nous venir en aide. Mais ça peut signifier aussi, fait que ces dons se transforment en tant que corps et sang, pour, à nos yeux, en quelque sorte, pas pour nous servir notre intérêt, hein, mais fait que nous les prenions pour tels, que nous les voyons comme tels, qu'ils apparaissent tels à nos yeux, et tels nous les croirons, tels ils seront, et peu importe ce qu'ils sont en réalité. Par exemple, ça peut dire, ça peut signifier, ce sera la présence réelle, hein, l'Eucharistie, dans l'hostie, ce sera la présence réelle, si j'y crois, hein, si c'est ainsi à mes yeux, qu'elle devienne pour nous à nos yeux. Donc on ne se prononce pas sur la réalité, hein, mais sur l'acte de crédit que nous faisons à la chose, la fiducia, la confiance, vous voyez, qu'elle devienne à nos yeux. Et alors le pour nous dont je suis parti renverrait à une sorte de mythe ou d'hallucination, hein. Mythe, j'appelle mythe ce qui n'existe qu'ayant la parole pour cause, disait Valéry, hein. Mais je m'empresse de dire, pour terminer la réflexion ici, que ce sont les mythes qui nous font vivre, hein. Valéry disait « Que serions-nous sans le secours de ceux qui n'existent pas, hein ?» Bon, et que nous tirons notre existence vraie de nos croyances, hein. Maintenant, figer telle ou telle réalité en dogme, eh bien, c'est arrêter ou bloquer de façon autoritaire les possibilités du langage. Alors, j'ai peut-être, devant la formule de la consécration, une vision que l'on appelle tropiste. Hein, tropiste. Les tropistes sont des hérétiques dont nous avons parlé dans notre série sur les hérétiques, qui disait que les choses n'avaient de valeur que figurées, si vous voulez. Tropos, c'est un tour, une figure en grec, hein. Eh bien, hérétique pour hérétique, bon, Paul dit bien qu'il faut qu'il y ait des hérésies, hein, il faut qu'il y ait au portet à RSSC dans la Vulgate.
Merci Michel, et ben voilà, on est arrivé à bout, hein, quand même, on s'est pas crucifié pour y arriver, mais je trouve que c'est toujours important de revisiter ces expressions qui sont passées dans le langage courant, dans le langage laïque aussi, mais qui sont en fait l'expression ou une photographie d'un moment donné, et qui en disent long aussi sur l'état des débats de l'époque.
Absolument.
On continue la semaine prochaine, alors là, c'est après la crucifixion et la mort, donc on abordera la thématique, on n'est pas encore sorti, hein, de ces temps de souffrance. Merci à vous, portez-vous bien, tournez-vous vers le soleil en espérant que le temps soit au beau fixe, parce qu'on nous dit que l'été sera un peu pourri. Mais enfin, tant que l'espérance est là.
Voilà, on verra bien.
À bientôt.
Au revoir à tous.
C'était « Des mots pour le dire », une émission de Redouane Esponti avec Michel Théron.